Radiolac et les chaînes Carac avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Lac en audio tous les jeudis 14h-15h, c'est en direct et c'est quand vous le souhaitez sur carac.tv dans notre tout nouveau, tout beau studio. Je vous recommande carac.tv pour aller voir cette émission et toutes les autres, mais aussi découvrir ce nouveau studio qui accueille donc dès aujourd'hui Parlons Économie et un nouveau studio pour parler de grands projets immobiliers. Ça se tient, comment les grands projets immobiliers refaçonnent Genève? Voilà la question que nous allons nous poser avec différents invités autour de la table. Je dis déjà bonjour à Yves Cretenny qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Dans le micro, c'est parfait. Vous êtes le directeur des ventes de Neff Immobilier. En quelques mots, les principaux domaines, parce qu'on connaît le nom, mais les principaux domaines d'activité de Neff.
Alors, le groupe Neff est actif dans tous les métiers de la production urbaine, donc en passant des métiers de la gérance immobilière, du courtage, du développement, du pilotage et de la gestion de patrimoine.
On aura donc plusieurs choses à se dire effectivement dans le courant de cette émission. Avant de vous présenter nos premiers invités, Bertrand Konaté est avec nous. Bonjour Bertrand.
Bonjour Benjamin.
Vous êtes responsable de projet au département promotion et soutien à l'économie de la CCIG. Bientôt les grandes vacances, l'occasion peut-être de partir, de voyager?
Exactement. Le 27 mai, la Chambre de commerce de Genève ainsi que Turkish Airlines organise un événement qui sera dédié aux voyages d'affaires. Comme vous le savez, aujourd'hui, les voyages d'affaires représentent comme un levier assez important, que ce soit pour le développement des entreprises ou pour mener des négociations. Et donc, ça sera l'occasion pour Turkish Airlines de présenter ses services en matière d'aviation d'affaires, de voyages d'affaires. Et de proposer justement des services pour optimiser les voyages et pour finalement offrir un confort, on va dire, et puis maîtriser les coûts pour les différentes entreprises.
Alors ça, c'est bien pour tout le monde, y compris donc pour les entreprises. Hein. Redonnez-moi la date.
Le 27 mai, entre midi et 14h, à la Chambre de commerce. Et donc, les inscriptions peuvent se faire directement sur notre site internet de la Chambre de commerce de Genève.
C'est plutôt bien pensé, cette affaire. Et nos premiers invités, comme promis, les voici. Bonjour Guillaume Massard.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la Fondation pour les terrains industriels de Genève, les FTI. Vous en êtes donc le directeur général. À vos côtés, Vindao, bonjour à vous.
Bonjour Benjamin.
Directeur général de la Fondation Praï Acacia Vernet. Parce qu'on va en parler de ce fameux PAV. On en parle depuis des années. C'est l'un des plus grands projets de renouvellement urbain en Europe. C'est ce que j'ai lu, c'est le cas vraiment?
Oui, tout à fait. C'est un projet très ambitieux à l'échelle de Genève, à l'échelle de la Suisse, et on peut dire effectivement à l'échelle européenne, dans cette logique vraiment de renouvellement urbain, c'est-à-dire de convertir la ville en ville. Donc à ce titre-là, oui, c'est un des plus grands projets aujourd'hui en Europe. On parle de 12 000 logements,
oui,
et 6 000 nouveaux emplois. Donc c'est vraiment un projet d'envergure cantonale et régionale.
Dans une ville où le taux d'appartements, de logements en tout cas libres, varie entre 0,5 et 1%, c'est-à-dire l'importance d'avoir des logements en plus. Vous étiez venu nous voir ici même en 2022, question extrêmement simple, quoi de neuf?
Alors merci pour l'invitation parce que c'est vraiment intéressant pour nous de refaire un point de situation en 2025. Effectivement, on avait dit à l'époque que le PAV a démarré et là il a vraiment démarré. Je crois que ceux qui sont dans le quartier du PAV le vivent tous les jours. On a trois chantiers en cours, donc le campus Pictet, le chantier Vernet et la renaturation de la Brise. On a donc les premiers logements qui vont arriver début 2026, donc c'est vraiment très concret. On a aussi beaucoup de planification en cours, donc on envisage l'élaboration de 12 PLQ, donc des plans d'urbanisme qui vont permettre les constructions.
Plans localisés de quartier.
Plans localisés de quartier, effectivement. On a lancé pas mal de concours aussi, donc des concours d'espace public, notamment à l'Étoile. Donc on a aussi des visions maintenant plus fines de ce qu'on veut faire et ce qu'on veut réaliser. Et tout ça toujours dans l'ambition souhaitée pour le projet. Après, au niveau foncier, peut-être effectivement avec les entreprises du PAV, on a aussi beaucoup avancé, avec notamment la FTI sur certaines relocalisations.
Vindao vous a lancé, Guillaume Massard, allez-y.
Alors, je vais compléter. Merci, effectivement. Alors, une des particularités de ce grand projet, c'est qu'on n'est pas dans une friche. Comme dans beaucoup de villes européennes, on a une désindustrialisation. À Genève, c'est plein, plus de 20 000 emplois aujourd'hui, dont on sait 7 à 8 000 industriels qu'on doit reloger. Alors ça aussi, c'est lancé. On a d'autres zones industrielles qui ont été prévues dans le canton, qui sont en cours d'équipement, en cours de commercialisation pour certaines. Et on a aussi des premiers nouveaux droits de superficie superficie ou des nouveaux projets privés qui sortent de terre et qui permettent d'offrir des surfaces à ces entreprises, sachant qu'on essaye toujours, on aimerait vraiment faire ce projet sans perdre de savoir-faire et sans perdre d'emploi de cette économie industrielle et artisanale qui est très importante à Genève.
Le PEF qui s'inscrit aussi dans ce que l'on appelle la ville au quart d'heure, c'est-à-dire avoir énormément de services juste autour, juste voire même à l'intérieur. Quel type d'activité est-ce que vous souhaitez y implanter demain ou en tout cas à moyen terme ?
Je peux prendre la parole peut-être pour les quartiers de logement, parce que l'idée de ce PAF, c'est de convertir cette zone industrielle historique en activité, effectivement, comme ça a été dit, en projet de logement. Donc la ville du quart d'heure, ça veut dire aussi, c'est plutôt des quartiers sans voiture. Donc ça veut dire qu'on doit offrir toutes les aménités aux futurs habitants dans les quartiers. Donc on veut du commerce, on veut du social, on veut de la culture, on veut du sport. Et dans certaines zones, même dans les quartiers de logement, il y aura aussi des immeubles d'activité pour du secondaire, pour du tertiaire. Donc ça, c'est pour les quartiers de logement. On veut vraiment offrir toute la panoplie des services et des commerces pour les habitants pour réaliser effectivement ce concept de ville du quart d'heure.
Guillaume Massard.
Je vais la compléter parce qu'une ville du quart d'heure avec des services de proximité, ça marche pas sans une chaîne de valeur logistique derrière qui fonctionne bien. Et on va devoir garantir aussi de pouvoir approvisionner la ville, la désapprovisionner, l'entretenir directement. Alors c'est la mission d'un des quartiers du PAV aussi qui s'appelle Prye West, qui est le long de la route des jeunes, qui va rester une zone essentiellement à vocation industrielle et artisanale, même si c'en est plus au sens propre, au terme, on va dire, d'affectation, mais on va l'utiliser pour prévoir la massification de la logistique, pour prévoir les exports des déchets de la ville, par exemple, et ça permettra justement d'amener de la qualité dans les quartiers urbains pour que ça se fasse de manière efficace, de manière durable et de manière fluide et qualitative pour les futurs habitants.
De la qualité et de l'économie aussi.
Alors bien sûr, nous on aimerait que ces outils-là, ils soient performants économiquement. On sait que pour approvisionner une ville, les questions de rupture de charge, les questions de mobilité, de facilité d'accès sont très importantes et on travaille là-dessus.
Et nous continuons d'en parler pendant plusieurs quarts d'heure sur Radio Lac et sur Carax et Parlons Économie.
Bye.
Parlons économie sur Radio Lac et les chaînes Carac.
Une émission consacrée aux grands projets immobiliers. Comment est-ce qu'ils refaçonnent Genève? La question est posée avec notamment le PAV représenté par Vindao, le directeur général de la Fondation Praï, Acacia Vernet, Guillaume Massard également. Et dans ce studio, le directeur général de la Fondation pour les terrains industriels de Genève, FTI. Également à mes côtés, Yves Cretenny, directeur des ventes de Nef Immobilier. Bertrand Konaté également, responsable de projet au département promotion et soutien à l'économie de la CCIG. Juste l'économie, alors à l'échelle du quartier, mais pas seulement, puisque donc ces nouveaux quartiers permettent, on l'a dit, de redynamiser l'économie. Très concrètement, ça se passe comment? On a des espaces à disposition, on cherche des entreprises précises, on les aide à venir s'implanter? Ou autre.
Oui, alors il y a plusieurs manières de faire. À Genève, on a une différents modèles en fait pour ça. On a une fondation comme la FTI à qui on a confié en fait une maîtrise foncière dans des zones industrielles, mais qui est minoritaire. La plupart des terrains sont des terrains privés en développement privé, pour lequel on définit des plans d'affectation et des capacités de développer des activités économiques. Donc en fait, on a, et c'est une chance d'ailleurs, on a plusieurs manières de faire. On a faire émerger et aider les privés à faire émerger des projets sur leur terrain, qui peuvent être mis en disposition en bail à loyer ou en propriété par étage ou dans d'autres montages immobiliers. Et puis on a la maîtrise foncière publique qui permet de faire essentiellement ce qu'on appelle des droits de superficie, donc de mettre les terrains de manière très long terme à disposition de privés qui construisent des bâtiments. Et c'est en fait en travaillant sur l'ensemble de ces modèles et leur complémentarité pour essayer de répondre à tout le monde, à tous les types de besoins, qu'on arrive finalement, on pense qu'on va aussi arriver à faire cette grande mutation à Genève, c'est-à-dire sortir les entreprises du PAV, les installer ailleurs, soit à Praï Ouest, proche du centre, mais soit aussi dans des zones périphériques.
Tu as ajouté quelque chose, Vidao? Tout a été dit. Peut-être que tout a été dit.
Non, tout a été dit. Pour les industries installées aujourd'hui au PAF, c'est effectivement le mécanisme qui est prévu. Après, il y aura des nouvelles sociétés qui vont venir aussi, notamment justement dans les quartiers. Donc là, on parle plutôt justement du commercial. Voilà, la boulangerie de quartier, on veut des pharmaciens, on veut des bouchers. On veut que ce soit des vrais quartiers urbains avec toutes les activités économiques qui vont avec pour desservir les logements et les habitants au service des habitants. Donc là, dans ce mécanisme-là, comment on va attribuer ces arcades, on va dire, pour les rez-de-chaussée, des immeubles de logement, là, ce sera plutôt via des appels à projets pour l'ensemble de l'immeuble. Donc, ce sera plutôt le développeur de l'immeuble de logement qui aura son arcade. Et on l'a mis en place, notamment aux Acacias, une charte des rez-de-chaussée pour bien comprendre comment on va pouvoir animer ces quartiers par la commercialisation. Donc, c'est un autre type d'enjeu économique entre l'industrie et puis les entreprises qui vont venir vraiment alimenter les quartiers et faire vivre les quartiers.
Oui, c'est toute la difficulté, parce que là, on parle moyen terme, mais la refonte complète de ce quartier Praï-Acacia Vernet est prévue aux alentours de 2050-2060. On n'est plus à 10 ans près quand on a ce genre de vision. Comment est-ce qu'on pense à l'impact de manière aussi lointaine?
Alors c'est vrai qu'on a, c'est une des caractéristiques de projet et c'est une des thématiques vraiment qu'on souhaite traiter avec la FTI et les entreprises du PAF. C'est comment on va faire cohabiter un certain nombre d'années des entreprises qui ont besoin d'accessibilité, de conditions d'exploitation de leur immeuble dans un quartier en mutation, puis en même temps accueillir des nouvelles familles qui voudront de l'espace public tranquillisé, d'une place publique, prendre leur café sur la terrasse du café. Donc ça, c'est une thématique qu'on devra traiter et gérer. Alors, on va plutôt travailler effectivement par opportunité et lot qui permettent de bien dissocier. Et c'est un des enjeux, c'est de garantir quand même l'exploitation des entreprises qui vont rester effectivement un certain nombre d'années. Et ce thématique de la transition, elle est au centre de nos préoccupations.
Et pour la FTI, la Fondation pour les terrains industriels, de savoir qu'il y a un projet en cours jusqu'en 2060, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'imagine?
Alors c'est une bonne nouvelle, je pense, déjà pour toute l'économie genevoise et le secteur de la construction, le secteur immobilier, parce qu'on parle quand même de milliards d'investissements à faire dans cette période. Et puis pour nous c'est une bonne nouvelle parce que l'immobilier industriel a certaines particularités. On a assez peu de visibilité, les entreprises souvent des secteurs secondaires ou production ont assez peu de visibilité, donc on doit mettre différents espaces au fil du temps sur le marché en espérant que ça corresponde toujours aux tendances, en espérant que ça corresponde aux conditions cadres du moment. Et donc, c'est un peu, évidemment, on n'a pas de boule de cristal non plus. On espère que l'économie productive genevoise, l'économie d'exportation reste compétitive, reste très présente à Genève, même si on a plutôt des incertitudes internationales aujourd'hui. Et donc, nous, on se prépare, on accompagne, on essaie d'avoir toujours des solutions pour elle.
Dernière question, mais qui n'est pas la plus sympa, puisqu'on parle d'un horizon potentiellement 2060, ça veut dire 30 ans de travaux?
Oui et non, enfin, effectivement, mais c'est 30 travaux sur 140 hectares.
Mais comment on fait aussi pour garantir un bon accès, que ce ne soit pas trop compliqué pour les jeunes voix et les jeunes voix qui font de la question?
Ça, c'est vraiment un métier, j'aime dire. Donc, c'est vraiment les professionnels de l'immobilier qui sont très bien organisés, qui savent faire.
La patate chaude.
On a deux expériences aujourd'hui au PAV. On a eu la caserne des Vernets et le chantier Pictet. Le retour que j'ai des entreprises qui sont aujourd'hui en voisinage de ces deux chantiers ont été agréablement surpris de la gestion du chantier. Et finalement, ce qui impacte plus les chantiers, finalement, c'est tout ce qui est voirie, en fait. C'est tout ce qui est infrastructure. C'est quand les SIG doivent déposer du chauffage à distance dans les rues. Là, ça bloque les rues. Quand on est dans les chantiers de construction des immeubles, on arrive à gérer assez bien les nuisances des chantiers.
Puis, on est conscient de cette problématique, donc on s'est quand même organisé pour ça. Et je pense qu'il y a deux niveaux d'organisation. Le premier, c'est qu'on s'est organisé, nous, ce qu'on appelle en opérateur urbain. Donc Fondation PAV, FTI et la direction du PAV, qui est le service d'urbaniste de l'État de Genève, du département du territoire, dédié à ce périmètre. Donc nous, on se parle et on coordonne qui va intervenir où, moi sur mes chantiers, la Fondation PAV sur ses chantiers et tous les acteurs privés également. Et en plus, on a quand même un service et un département qui traite de la mobilité à Genève et qui a une plateforme de gestion des chantiers qui va lier les équipements publics au développement privé et qui va, elle aussi, pouvoir identifier à un moment des goulots d'étranglement et des problématiques. Alors oui, il va y avoir des chantiers pendant 40 ans. Je crois qu'il ne faut pas le nier, c'est un fait. Mais il y a des organes à différents niveaux qui s'en occupent et on dialogue beaucoup. Nous, on ne se substitue évidemment pas à la politique de mobilité ou à cette coordination, mais on travaille beaucoup avec eux, on s'informe et on partage.
Alors quand même, puisqu'il souhaite réagir, Yves Cretigny, le directeur des ventes de Neuf Immobilier, vraiment sur cette question.
Oui, cette question des chantiers, mais la question c'est, évidemment, s'il y a des chantiers, c'est qu'il y a de la construction. Et l'enjeu, que ce soit du côté du logement ou du côté des entreprises, la fabrication de nouveaux espaces dans un contexte extrêmement contraint, que ce soit côté logement ou côté même disponibilité pour les entreprises, c'est un enjeu majeur pour Genève. Évidemment, il y a quelque part le prix à payer du développement pour accueillir des nouveaux habitants et continuer à accueillir des entreprises, c'est précisément de faire évoluer la ville dans un environnement dans lequel le foncier du canton est contraint.
Et c'est pour ça qu'on en parle sur Carac et sur Radio Lac. Vindao, je rappelle que vous êtes le directeur général de la Fondation Praille, Acacia Vernet, Guillaume Massard, directeur général de la Fondation pour les terrains industriels de Genève. Merci beaucoup, messieurs. Radio Lac. Vous restez avec nous dans quelques secondes. Cette émission continue et nous profitons de l'original Lady Marmalade. C'est Patti Labelle qui arrive sur Radio Lac.
Radio Lac, Genève.
Le 9 mai, préparez-vous à vivre une soirée légendaire. Cash Returns, le spectacle hommage à Johnny Cash et June Carter, débarque au théâtre de Beaulieu à Lausanne. Revivez les classiques comme Ring of Fire, Jackson et Hurt. Et replongez-vous dans les grandes heures de la musique country. Réservez vos billets maintenant sur ticketcorner.ch en partenariat avec Radio Lac.
Depuis plus d'un siècle, Fleurio propose des fleurs d'une qualité exceptionnelle, souvent produites à Genève, dans le respect de l'environnement. Fleurio, 7 boutiques en Suisse romande et une boutique en ligne sur fleurio.ch.
Fleurio pour une fête des mers unique. Un rendez-vous d'exception. Le Gonet Geneva Open fête ses 10 ans et vous donne rendez-vous au Parc des Eaux Vives du 17 au 24 mai. Après une affluence record en 2024, venez participer à la fête du tennis, sublimée par les présences de Casper Ruud, triple vainqueur et tenant du titre, de Taylor Fritz et de Grigor Dimitrov. Le spectacle promet d'être inoubliable.
sur Radio Lac et les chaînes Carac, avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.
Avec cette question aujourd'hui, comment est-ce que les grands projets immobiliers refaçonnent Genève? Elle est vaste, cette question. On se la pose avec Bertrand Conaté, responsable de projet au département promotion et soutien à l'économie de la CCIG. Toujours autour de la table, Guillaume Massard, le directeur général de la Fondation pour les terrains industriels de Genève. Yves Cretenny, directeur des ventes de Nef Immobilier, nous a rejoint. Antoine Courvoisier, bonjour à vous Antoine Courvoisier.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Et merci à vous d'avoir répondu présent dans notre tout nouveau, tout beau studio. Vous êtes membre de l'équipe management de Swiss Prime Site. En quelques mots, qu'est-ce que Swiss Prime Site?
Alors, Swiss Prime Site Immobilier est une société immobilière cotée qui est active en Suisse. Principalement, on a tendance à dire le long de l'autoroute A1, c'est-à-dire entre Zurich et Genève, dans les grands centres urbains, Berne, Lausanne, Arc-Lémanique, Genève, également Bâle, et une exception dans le Tessin.
Est-ce que ça veut dire que vous êtes le concurrent direct de Nef Immobilier?
Alors, je ne pense pas. Il y a de la place pour beaucoup d'acteurs immobiliers en Suisse.
Vous êtes tous les deux d'accord, ça me va bien, c'est très bien.
Je crois qu'on n'est pas concurrents, il y a énormément de projets, d'objets, de choses à faire en matière immobilière, en Suisse, à Genève en particulier, en Suisse romande également. Donc il y a de la place pour des acteurs de profils et de secteurs très différents.
On va développer tout cela dans quelques minutes, mais je me retourne d'abord vers vous Yves Cretenny. Donc Nef Immobilier, vous en êtes le directeur des ventes. Il y a eu un rapport rétrospectif 2024, perspective 2025. Comment se porte l'immobilier, mais surtout l'immobilier commercial à Genève? Moi, je vois de plus en plus d'arcades qui se vident.
C'est vrai, en partie. Quand on parle d'immobilier commercial, il faut toujours un peu aborder le sujet en imaginant que ce n'est pas un gros bloc homogène. Quand on parle d'immobilier commercial, on met dans ce paquet le bureau, on met dans ce paquet le commerce de proximité et le commerce d'enseigne. On met dans ce paquet également le data center, on y met l'hôtellerie. Donc il y a toute une série de secteurs qui connaissent des dynamiques différentes, sachant qu'évidemment, le gros morceau, quand on parle d'immobilier commercial, c'est bien entendu le bureau. Et dans le monde du bureau, on est dans un monde post-Covid aujourd'hui, dans lequel la manière avec laquelle les entreprises utilisent l'espace a changé. Elles souhaitent des espaces qui prennent en compte une partie du temps en télétravail, même si on voit qu'on est plutôt sur une fin de cycle sur le télétravail. Mais dans le fond, l'idée de réunir ses employés sous le même toit un certain nombre de fois fait partie de la culture d'entreprise et est souhaitée par la plupart des entreprises. Si elles peuvent le faire dans un environnement urbain, eh ben, elles aiment le faire. C'est-à-dire qu'il y a un attrait aujourd'hui pour les centres. Et puis, dernier point, elles aiment le faire dans des bâtiments qui aussi projettent l'image qu'elles souhaitent donner, en particulier celle d'une responsabilité environnementale, et donc avec des bâtiments qui sont responsables sous l'angle de leur consommation énergétique.
Mais c'est quand même une équation qui n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il faut des bureaux, et là je parle vraiment des bureaux, qui soient plus intéressant que le télétravail pour que celles et ceux qui travaillent aient envie de revenir au bureau. Il faut également renouveler toute l'enveloppe autour pour qu'elle soit plus énergétiquement efficace, et il faut quand même continuer à avoir des commerces pertinents autour. Exemple très simple, un bon restaurant le midi, on sort du bureau, on va prendre un plat du jour. On n'arrive pas à régler tout ça d'un coup de baguette magique.
C'est vrai, mais on a la chance, on a des grands quartiers à Genève qui permettent d'imaginer des morceaux de ville un peu différents. Et en particulier, c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure le PAV. Le PAV est un lieu dans lequel on va pouvoir précisément expérimenter des manières de fabriquer une ville différente avec des logiques de création de quartiers, y compris pour les entreprises dans un certain nombre de cas, puisqu'il y en aura encore au PAV un nombre relativement important, qui permettront de résoudre cette fameuse équation urbaine. Comment est-ce que je donne envie à mes collaborateurs de venir en ville, de travailler dans des bureaux, parce qu'il y a une vie sociale qui n'est pas existante hors de la... en télétravail, même si on a une vie familiale intéressante en télétravail.
C'est vrai que ça peut être pratique. Des fois, c'est pas mal aussi de revenir un peu au bureau pour ça. Mais enfin bon, ça sera une autre émission. Très concrètement, est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises qui augmentent d'ailleurs à Genève, est-ce qu'il y a des locaux qui répondent à leurs besoins? Puisque comme vous le rappeliez, un logement commercial, c'est aussi par exemple un data center. On n'a pas les mêmes besoins que des bureaux.
Alors c'est vrai, on est dans une situation un peu paradoxale à Genève, avec un taux de vacances qui a nettement augmenté, qui d'ailleurs aujourd'hui pose toute une série de discussions en lien avec l'écart qu'on peut percevoir entre le taux de vacances du résidentiel, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui se situe à moins d'un demi pour cent, et puis dans certains quartiers, on a des taux de vacances qui se situent au-delà de 10%. Ça, c'est en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait qu'aujourd'hui, les bâtiments qui sont vacants ne sont pas toujours, ne correspondent pas forcément aux besoins que dont les entreprises, que les entreprises expriment. Et donc, on a cette situation de mutation. Et paradoxalement, on se trouve dans une situation dans laquelle, dans les quartiers centres, et je mets le pavé dans les quartiers centres, on a aujourd'hui, parce que le quartier est en fabrication, un manque d'offres qui correspond aux demandes des entreprises.
Donc, si je résume vraiment d'un mot, on a de la place, mais on n'est pas sûr que ce soit la bonne place.
C'est ça.
Bon, eh bien, écoutez, on a tout dit, mais on va quand même se retrouver dans quelques instants sur Carac, sur Radio Lac, pour poursuivre Parlons Économie. Le temps de profiter sur Radio Lac de ce souvenir Ultravox. Voici Dancing with Tears in My Eyes. Dis donc, il est déjà 14h30.
économie sur Radio Lac et les chaînes Carac.
Comment les grands projets immobiliers refaçonnent Genève? C'est la question que l'on se pose autour de la table. Il y a Antoine Courvoisier, membre de l'équipe management de Swiss Prime Site. Il y a également, toujours autour de la table, Guillaume Massard, le directeur général de la Fondation pour les terrains industriels de Genève. Yves Cretenis, le directeur des ventes de Nef Immobilier. Bertrand Conaté, responsable de projet au département promotion et soutien à l'économie. Nous parlions de cette difficulté finalement d'avoir des quartier vivant, on en veut, c'est pas toujours simple à faire. Bertrand, on parlait hors antenne d'un quartier qui, lui, est la preuve que les choses peuvent également être dynamiques.
Oui, effectivement, on voit qu'avec l'arrivée du Léman Express, les choses ont changé. Donc la demande est quand même relativement forte pour justement les bureaux, les surfaces qui se trouvent justement tout le long du Léman Express. C'est des nouveaux quartiers qui sont aussi assez dynamiques, on va dire, et puis la demande est extrêmement forte. Donc le taux de vacances aussi est relativement faible. Lorsqu'on compare avec d'autres zones du territoire genevois. Et on voit aussi que ça permet bien évidemment aux gens de se déplacer très facilement. Donc ça a vraiment permis de remodeler, on va dire, les choses à Genève.
Ah bien, un exemple très simple, c'est vous faites Lancy-Bachet, je ne sais pas, au Vif, parce que vous voulez aller au lac en plein été. Je crois que c'est 7 minutes la durée, donc c'est assez exceptionnel en effet. Cependant, et c'est une question pour tout le monde autour de la table, est-ce que vous avez le sentiment que c'est la continuité de ce déploiement du succès des gares? On a vu les commerces à l'intérieur des gares qui ont marché de plus en plus parce que les gens se déplaçaient comme ça de plus en plus. Maintenant, on a plus de commerces autour, des logements autour. Vous avez l'impression que c'est lié ou pas? À qui veut répondre? Antoine Courvoisier prend le micro, ça sera pour vous.
Alors oui, c'est certainement lié. Ça fait même de nombreuses années. SPS, par exemple, a dans son ADN de choix de projet d'emplacement une connexion avec les transports publics et avec les gares en particulier. Donc ça, c'est clairement un avantage. Il y a aussi d'autres critères en termes de mobilité qui sont importants. Si je pense à Genève notamment, le réseau des transports publics est un bon réseau, efficace, mais il manque clairement des lignes tangentielles. Et des lignes tangentielles de tram, par exemple, pourraient aussi aider à redynamiser certains quartiers. On parlait des zones de l'aéroport notamment, qui sont certainement, qui pourraient être reliées à d'autres régions, à d'autres park and ride dans la région frontalière et où les gens pourraient accéder plus facilement. Donc c'est clair que l'accessibilité en termes de mobilité est un atout pour développer et créer des nouveaux projets ou faire en sorte que les projets actuels puissent, je dirais, être correctement remplis et loués.
Yves Cretenis, c'est assez juste ce que dit Antoine Courvoisier, sans faire forcément quartier par quartier, mais on a quand même la chance d'avoir un aéroport, et on ne va pas rentrer ici dans le débat aéroport pour ou contre, mais d'avoir un aéroport qui est quasiment au cœur de la ville, et pourtant c'est un quartier qui tombe un peu en désuétude, c'est en tout cas l'impression que ça donne aujourd'hui, et c'est bien dommage.
C'est vrai que le centre de gravité du développement économique dans les années 80 a beaucoup été le quartier de l'aéroport. C'était beaucoup lié précisément à l'arrivée des multinationales dans le canton. En fait, d'ailleurs, les bâtiments qui y sont construits portent encore souvent le nom des multinationales qui les ont créés. On était dans une période dans laquelle l'usage de l'avion était majeur, notamment pour une entreprise multinationale. Et là aussi, dans un monde... ça fait une vingtaine d'années que les nouvelles technologies ont transformé l'usage de l'espace par les entreprises. Mais c'est vrai que le Covid a été un énorme coup d'accélérateur. Et aujourd'hui, on se rend... Évidemment, l'aéroport a une fonction extrêmement importante, notamment pour le développement de la Genève internationale et pour le développement de la qualité touristique ou la contribution à la vie locale. Mais c'est vrai que l'usage des espaces, la contribution de l'avion dans les entreprises aujourd'hui a été en partie remplacée par les moyens de communication digitaux. Et puis, avec un sujet qu'Antoine a évoqué tout à l'heure, qui est le fait que ce quartier d'entrée de ville, aujourd'hui, n'est pas relié aux axes de transport structurants majeurs. Et donc, du coup, c'est le quartier aujourd'hui qui, c'est vrai, souffre un peu de cette transition. Il est à la fois peu urbain et mal desservi, pour l'instant. Donc, il y a un vrai travail de recomposition urbaine qui doit sans doute être imaginé dans ce secteur.
La difficulté, peut-être pour vous, Guillaume Massard, mais pas forcément si vous ne souhaitez pas répondre à ça, c'est que j'ai l'impression que le temps de l'urbanisme n'est pas le temps de l'économie, qui n'est pas le temps de la vie de quartier. On parle de trois choses différentes.
Oui, tout à fait. Puis je vais rester dans mon prisme de spécialiste de l'industriel et de l'artisanal. C'est le cas aussi. Hein. Les métiers, tout comme le bureau, tout comme le logement, les espaces productifs évoluent. Et c'est vrai que le temps de planification, le temps de réaction pour développer soit les infrastructures structurantes, soit revoir la qualification de ces espaces par les plans d'affectation ou par l'urbanisme, n'est pas toujours en phase avec des évolutions extrêmement rapides, voire disruptives technologiques, voire d'évolution des marchés internationaux, et ça nous oblige à de la créativité, mais c'est aussi stimulant, la créativité.
Et on continue d'en parler avec également l'avis d'Antoine Courvoisier sur cette question dans quelques instants sur Radio Lac et sur Carac. Le temps de profiter, c'est pas son titre le plus connu, donc c'est bien de l'écouter, de Whitney Houston sur Radio Lac.
You're making me feel I can do anything for you, baby. I'll be done for you, baby. Stay on my thoughts, how could I? Just all
sur Radio Lac et les chaînes Carac, avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.
Le monde évolue, Genève évolue, nous en parlons dans cette émission. Comment est-ce que les grands projets immobiliers refaçonnent Genève? Des éléments avec Antoine Courvoisier, qui est membre de l'équipe management, développement et construction chez Swiss Prime Site. SPS, également Yves Cretoni, le directeur des ventes de Nef Immobilier, également Guillaume Massard, le directeur général de la Fondation pour les terrains industriels de Genève, et en bon français, last but not least, Bertrand Conaté, responsable de projet au département promotion et soutien à l'économie de la CCIG. Nous parlions il y a quelques instants donc de cette nouvelle manière de penser les choses, de penser les logements, de s'adapter aussi, parce que finalement, on en revient toujours à cette question-là, c'est l'adaptation dans les quartiers aussi, Antoine Courvoisier.
Alors absolument, et je pense qu'un des points importants, on parle évidemment maintenant beaucoup de la Suisse à 10 millions, de l'initiative sur laquelle on va devoir voter, il y aura un débat politique, social qui est important, mais d'un point de vue de l'aménagement urbain, de l'aménagement du territoire et comment, indépendamment du résultat politique des discussions, on peut faire en sorte que cette Suisse à 10 millions soit attractive et intelligemment pensée, c'est en termes de planification, de prévoir une souplesse dans les affectations et dans l'utilisation des périmètres pour qu'on puisse plus facilement faire évoluer, amener de la mixité et créer cette attractivité qui évite justement les blocages et évite peut-être que ce qu'il y a aujourd'hui, à savoir des nœuds à certains endroits, des goulets d'étranglement, trop de bureaux, pas assez de logements. Peut-être qu'en étant plus souple, on arrivera à résorber ceci, à être beaucoup plus agile.
Est-ce que, je ne sais pas si vous en avez, mais est-ce que vous avez des exemples concrets? Parce qu'il y a aussi des choses qui se font dans d'autres cantons, je pense à Zurich, que vous êtes très présent.
Alors, typiquement, on a un exemple très concret à Genève qu'on est en train de changer d'affectation. C'est un immeuble de bureaux qui est maintenant vide à l'avenue du Boucher, qu'on transforme en logement et qu'on a pu faire, heureusement, grâce à, je dirais, des discussions assez poussées avec le canton et la ville de Genève qui nous ont permis justement à faire évoluer ce plan de zone et ce plan de quartier vers une affectation logement, alors que c'était un plan de quartier bureau. Mais ça n'a pas été tout simple. On aurait, je pense, avec des outils plus souples, pu arriver à ce même résultat de manière plus rapide et plus efficace que ce qu'on a fait. On y est arrivé, mais ça a pris, bon an, mal an, 3 ans. Alors qu'on aurait, je pense, pu faire ça beaucoup plus rapidement.
Et techniquement, le problème, c'est quoi? C'est la législation, le problème?
C'est un plan de quartier qui fait que ce bâtiment était défini dans le plan de quartier comme affectation bureau. Et si vous changez en logement, vous devez soit abroger le plan de quartier, soit obtenir une dérogation de la municipalité, etc. etc.
Donc c'est le laisser-passer A38 d'Astérix.
C'est à peu près ça. D'accord. Voilà, exactement.
Les fameux 12 travaux.
Oui, exactement.
J'en reviens vers vous, Yves Cretoni. Qu'est-ce que le micro-living?
Alors, peut-être, avant de parler du micro-living, qui est la réponse, on va dire, pratique à la chose, c'est vrai que l'enjeu...
Une réponse, en tout cas.
Une réponse, c'est vrai. Et c'est exactement le point qu'évoquait Antoine tout à l'heure, c'est dans la fabrique de la mixité, étonnamment, dans la tête de beaucoup de monde, la mixité paraît simple à fabriquer. Mais on a un système de planification territoriale qui a été construit sur l'idée de dire, malgré tout, malgré le fait qu'on fabrique de la mixité, sur le fait de dire que chaque zone devait avoir son usage. Et l'idée d'imaginer une zone qui avait plusieurs usages, elle a l'air comme ça évidente, mais elle n'est pas aussi ancrée que ça dans la législation. Et comme l'évoquait tout à l'heure, les changements d'affectation, pour ne parler que de celles qui vont du monde du bureau, sur lequel on voit bien que la quantité de surface disponible pourrait exister pour la convertir vers le monde du logement, n'est pas chose aisée facilement. Alors le micro-living correspond à un deuxième usage, parce que c'est bien d'imaginer de la souplesse dans le changement dans l'usage d'un morceau de sol, mais il faut aussi imaginer en fabriquer un peu plus. Et pour en fabriquer un peu plus sur les mêmes mètres carrés, il n'y a pas 50 solutions, il faut faire la densification, il faut monter un peu plus haut, et il faut que chaque mètre carré de sol contribue plus, dans cette logique multi-usage, à la fabrique de la ville. Alors le micro-living, c'est une logique qui consiste à dire que, en fait, on est à la frontière du monde, de l'hôtellerie et du monde de l'habitation. L'idée, c'est de dire que dans les appartements tels qu'ils existent aujourd'hui, les parties privées et les parties communes sont identiques. Hein. J'ai ma cuisine, j'ai mes sanitaires, j'ai mes espaces communs. Et puis le micro-living s'appuie en partie sur l'idée de dire qu'une partie privative peut être plus petite parce qu'on partage une partie des surfaces communes. Et donc la somme de la consommation de sol que l'on prend est un peu plus petite, et donc du coup on utilise mieux le sol.
Mais est-ce qu'on peut entendre aussi que des gens disent « Je suis désolé, moi j'ai envie d'avoir une chambre d'amis qui me sert qu'à moi quand je veux, sinon elle ne sert peut-être à ranger l'aspirateur si ça m'amuse ».
Oui, tout à fait, chacun évidemment il y a…
Mais ça va coûter 6000 francs par mois.
Alors c'est tout sujet, c'est dans un monde contraint, chaque mètre carré de sol est à un prix qui est différent, et c'est vrai que la question du prix est un sujet complexe. Et l'idée, pour que chacun puisse obtenir un nombre de mètres carrés qui permettent de vivre dans des conditions correctes, le micro-living est une solution et une réponse. Mais l'enjeu, il va de la même autour du monde de la villa, par exemple. Hein, aujourd'hui, on a une très forte demande dans le monde de la villa, c'est l'objet qui est le plus demandé. Or, on sait que la villa, elle consomme un certain nombre de mètres carrés de sol qui est relativement important. Or, le sujet, c'est comment on fait pour rendre aussi désirable la villa avec un appartement urbain entouré de parcs avec une qualité de vie et une proximité de service importante. Et c'est là que la fabrique de la ville dense désirable devient vraiment un enjeu extrêmement important.
La réponse, dans un instant, sur Carac, sur Radio Lac. Pour la dernière partie de cette émission, après le titre intemporel de Patti Smith, Because the Night, sur Radio Lac.
Les têtes à claque sur Radio Lac,
le vendredi dès midi.
Il suffit de demander.
Comment est-ce que les Jurassiens percevaient Genève?
Vous avez une magnifique rue du Rhône où on n'ira jamais parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Ce que je hais chez vous, c'est la circulation. Tu mets 1h30 pour faire 6 km à l'intérieur de Genève.
Les têtes à claque.
Et ce vendredi 9 mai, je reçois le poète Jean-Luc Fornelli, le musicien et chanteur Dorian Gray et le restaurateur Vincent Gloser. En bonus, Delphine de Rémy. Alors à demain, en direct dès midi sur Radio Lac.
Radio Lac, Genève.
Un rendez-vous d'exception. Le Gonnet Geneva Open fête ses 10 ans et vous donne rendez-vous au Parc des Eaux Vives du 17 au 24 mai. Après une affluence record en 2024, venez participer à la fête du tennis, sublimée par les présences de Casper Ruud, triple vainqueur et tenant du titre, de Taylor Fritz et de Grigor Dimitrov. Le spectacle promet d'être inoubliable.
Peu importe qui tu considères comme ta famille, IKEA Family est là pour tout le monde. Et le meilleur ? Tu as accès à des offres exclusives, du café ou du thé gratuit, un cadeau d'anniversaire et plein d'autres avantages. Sympa, non ? Passe nous voir et demande-toi plus tard pourquoi tu n'étais pas déjà membre IKEA Family.
Tu cherches une motivation pour courir ou marcher ?
Oui, j'aimerais bien faire une bonne action.
Inscris-toi à Race for Gift, c'est la course solidaire de Genève.
Génial ! Je m'inscris tout de suite sur raceforgift.ch.
Bravo ! Et pour les 10 ans, tu peux collecter des dons et battre le record.
Race for Gift.
Donner du souffle à la solidarité.
The fire I breathe, love is a banquet on which we feed.
l'économie sur Radio Lac et les chaînes Carac.
Comment est-ce que les grands projets immobiliers refaçonnent Genève? Yves Crotoni, directeur des ventes de Nef Immobilier, est là, tout comme Antoine Courvoisier, membre de l'équipe Management, Développement et Construction chez SPS, Swiss Prime Site. Guillaume Massard, directeur général de la Fondation pour les terrains industriels de Genève. Et Bertrand Conaté, responsable de projet au département Promotion et Soutien à l'économie de la CCIG. Nous parlions micro-living, c'est-à-dire repenser les espaces. Hein, exemple très concret, la chambre à coucher qui ne doit plus servir que 8 heures par jour ou plutôt par nuit, mais servir aussi à autre chose. C'est une tendance, on en a parlé avec vous Yves Crotoni, c'est une tendance chez SPS aussi, même si vous êtes peut-être un peu plus dans le logement business, mais c'est quelque chose que vous constatez, cette réorganisation en tout cas de l'espace?
Alors, on la constate effectivement dans le domaine du bureau et du secteur des services, dans le domaine du micro-living. Alors, on n'a pas de projet en micro-living sur Genève. On en a, sauf erreur, sur d'autres périmètres en Suisse, mais je n'ai pas les détails exacts. Mais en ce qui concerne les bureaux, c'est clair qu'on constate des différences d'utilisation et d'usage des espaces. Les gens qui viennent au bureau ont besoin, à la fois, c'est assez paradoxal, mais d'espace où ils peuvent travailler tranquillement, où ils peuvent s'isoler du bruit, parce que ça reste quand même une contrainte, ou je dirais un élément très important selon le travail qu'on fait. L'open space, ça peut marcher, mais il doit y avoir des échappatoires. Et ces échappatoires, c'est soit des endroits tranquilles, soit des salles de réunion. Ça peut être aussi des endroits où, justement, alors à ce moment-là, on se retrouve à plusieurs. Le fameux coin de la machine à café, il reste immuable, celui-là.
Mais c'est vrai qu'on a vu fleurir ces espèces de petites cabines très insonorisées, oui, pour pouvoir s'isoler.
Alors, exactement, ça peut servir à passer un coup de fil où on n'a pas envie que tout le monde entende ce qu'on dit. Ça peut être pour une réunion avec son chef de manière un peu discrète. Enfin, il y a plusieurs usages. Après, je pense pas qu'on ait envie d'y passer toute l'après-midi dans un truc capitonné où on entend pratiquement sa respiration. Donc non, c'est un peu une modularité de ces espaces qui est importante. Est-ce qu'on va aller vers du Google où il faut qu'il y ait un billard, faut qu'il y ait des poufs, etc.? J'en sais rien, à voir. Oui, certaines entreprises le demandent, certaines entreprises le font, mais pas toutes. Ça dépend aussi beaucoup, je pense, de la culture de l'entreprise qui occupe les surfaces.
Guillaume Massard, vous souhaitiez rebondir?
Oui, de nouveau dans l'enjeu de l'économie industrielle et artisanale, parce que ça va exactement dans le même sens. En même temps, on doit densifier. Donc on peut renoncer aux distances, aux limites entre les bâtiments, on peut construire plus haut. Ça a un gros impact sur la manière dont on va produire, la manière dont on s'organise, mais on peut le faire. Puis on voit qu'on peut faire des synergies. Alors c'est pas la chambre à coucher ou la cuisine, ça va être le vestiaire, la cafétéria, des espaces de réunion, des moyens, des espaces logistiques aussi, des parkings, des choses comme ça qu'on peut partager. Et puis l'autre tendance, c'est qu'on doit aussi amener de la qualité. Donc si on fait ça, on doit aussi amener dans les OHL des restaurants, des pressings, des offres de sport, de fitness, de récréation, voire aujourd'hui de récréatifs festifs, hein, parce qu'on peut avoir de la nuisance dans la zone industrielle. Ça amène la qualité. La contre-tendance, c'est qu'on réduit les surfaces à disposition des industriels purs. Donc on a un peu ce paradoxe, un petit peu, entre ce besoin de qualité et ce besoin de surface qui répond à la demande des entreprises.
J'ai une dernière question, parce que je sais que chez SPS, vous aimez les emplacements qui sont très attractifs. Comment on définit un emplacement attractif? C'est quoi un bon emplacement?
Alors, chez nous, un emplacement attractif, il a plusieurs caractéristiques. Évidemment, il doit être en adéquation avec ce à quoi le bâtiment est utilisé. Typiquement, si on fait de l'industriel artisanal, on va pas se mettre au centre-ville, ça paraît évident, mais enfin, c'est bien de le préciser. Ça montre justement qu'un emplacement attractif pour de la logistique, c'est une chose, pour un bâtiment de bureau, c'en est une, pour un bâtiment industriel, c'en est encore une troisième. Donc on doit adapter en fonction de l'usage. Après, il y a évidemment aussi la question de la connectivité, enfin de la mobilité, de l'accessibilité aussi. Bâtiment de bureau, comme je l'avais dit tout à l'heure, doit être connecté à un réseau de transport public performant pour que les gens viennent y travailler. D'ailleurs, un des éléments quand même importants du retour au bureau, c'est le temps de pendularité, je ne sais pas si le mot est juste, entre son domicile et le lieu de travail.
Ça si c'est trop long,
les gens ont tendance à vouloir faire